Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, pour notre émission mensuelle sur le potager dans la vallée de l'Hérault. Aujourd'hui, je serai tout seul. Fin février, début mars sont des grosses semaines d'activité pour les maraîchers. Et donc Mariano, qui est maraîcher à la retraite, avait prévu de venir parler dans notre émission pour permettre aux producteurs de faire le travail. Mais il est au lit avec une toux persistante qui le fatigue et ne lui permettra pas de vous parler. Nous lui souhaitons quand même un prompt rétablissement. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous pouvez nous écouter sur les fréquences 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast à l'adresse rphfm.org. Cette émission est diffusée à un rythme mensuel au début de mois. Nous y décrivons et expliquons la pratique du potager dans la vallée de l'Hérault avec les membres des semeurs de Lunévoix-Larzac et d'autres maraîchers de la vallée de l'Hérault. Je suis moi-même membre du collectif des semeurs de Lunévoix-Larzac, jardinier amateur et producteur de quelques graines, de semences paysannes, le plus souvent des oignons. Outre les travaux de mars, j'aborderai en fin d'émission la réglementation en cours de discussion sur les végétaux obtenus à partir des nouvelles techniques génomiques. J'avais déjà abordé ce sujet il y a 2 mois, l'émission diffusée janvier. Je me permets d'insister encore sur ces projets de règlement en fin d'émission, car il y a une autre date qui arrive, c'est celle de la proposition des résultats du trilogue au Parlement européen fin avril. Mais d'abord, parlons du jardin. Parlons du jardin en mars. L'on dit souvent, quand il tonne en mars, l'année sera bonne. Ou le mois de mars, quand il rentre doux, il sort amer. C'est donc une période très variable, pendant laquelle le maraîcher doit toujours être très attentif aux variations du climat. La pluie, l'orage, les températures, tout ça pour ses semis et ses plantations. Sur le marché, on trouve des légumes récoltés à l'automne, comme les oignons de garde, et des légumes en fin de conservation, les courges, les patates douces, les pommes de terre. On trouve aussi de nombreux légumes qui sont en cours de récolte, les choux-fleurs, les choux verts, les choux blancs, les choux quenelles, les verdures, comme les salades sous abri, ou non, les épinards, quelques radis, comme le radis de Gournay. Donc le choix de légumes est toujours large en légumes frais. Pour les travaux, vous êtes en train de finir la préparation du sol, avec incorporation de la matière organique, le compost, donc à partir de déchets végétaux bien décomposés, ou à partir de fumier bien décomposé. Surtout, ce compost est appliqué pour les cultures qui sont les plus gourmandes en engrais, en éléments fertilisants. C'est comme la pomme de terre ou les cucurbitacées. Mois de mars, c'est aussi le moment de faire des semis. Des semis de très nombreuses espèces. Les légumes d'été, les légumes ratatouille, tomates, aubergines, poivrons, les laitues, les salades et aussi toujours les choux et brocolis. Vous pouvez commencer à la fin du mois à semer les cucurbitacées, comme le melon, les concombres ou les courges, à l'abri, mais en petits pots individuels ou en mottes. Hein. Si vous avez des couches chaudes, elles permettront de hâter le démarrage des cultures. Si vous n'avez pas de couches chaudes, vous faites vos semis en petites caissettes à la maison pour profiter de la température de la maison. Vous ne les laissez pas trop longtemps dans la maison car les plantules vont filer, c'est-à-dire qu'elles vont grandir à la recherche de la lumière et devenir très fragiles quand elles seront mises dehors. Donc en général, au bout d'une à 2 semaines, les plantules sont repiquées dans des petits pots ou des mottes. Pour les tomates, ce stade de repiquage est caractérisé par les cotylédons bien étalés, des cotylédons bien verts, et au plus tard, au début de l'apparition de la première feuille. C'est assez précis, mais ça permet de poursuivre le développement de la plante de façon assez linéaire, sans à-coup. Et ensuite, vous planterez les tomates en mottes ou en petits pots, en pleine terre, le mieux avant la première fleur. Hein. Le rendement de la tomate est souvent influencé par le rendement du premier bouquet. Les plantations de pommes de terre sont à faire plutôt vers la fin de mars, car il peut y avoir des gelées notamment dans les bas-fonds. Mais rien n'est perdu, même si les feuilles ont gelé au mois d'avril, les tubercules semences enfouis dans la terre n'ont pas gelé. Ils peuvent émettre à nouveau des tiges et donc vous avez sans doute perdu simplement un peu de production. Vous trouverez les pommes de terre dans de nombreux magasins agricoles. L'utilisation de ces semences certifiées indique qu'elles présentent un taux de virus très faible, notamment le virus Y de la pomme de terre, et l'absence d'autres maladies comme le rhizoctone, le mildiou. Ces plants sont la plupart du temps traités aussi avec un fongicide de synthèse, le thiabendazole. Parfois, malgré ce traitement fongicide, ils sont considérés comme aptes à la production en agriculture biologique. Ça, je ne comprends pas très bien ça. Bon. Ces plants, ils sont issus d'un processus de multiplication de 6 à 8 ans. Ce système est en place en France depuis les années 60. Cette certification a permis un bon état général de la production de pommes de terre en France. Donc, mais de nombreux jardiniers utilisent aussi des pommes de terre de consommation pour leur culture. Et parfois seulement les bourgeons qui redémarrent. En général, cela fonctionne bien sur les premiers cycles de culture. Ensuite, si l'on veut continuer le même système, c'est-à-dire faire un choix de plantes pour les tubercules mères, il faut être très attentif et éviter que les plants mères soient indemnes de feuilles déformées ou n'hébergent pas des pucerons. Sinon, vous aurez rapidement une dégénérescence des plantes due essentiellement au virus transmis d'une génération par l'autre par ces grosses semences. Mais en conclusion, si vous renouvelez chaque année vos stocks et vous utilisez les plantes de consommation, il n'y a pas trop de problèmes. Bon. Si le jardinier amateur cherche des rendements moyens. Navets, radis, arroches, des épinards sont semés en place, donc dans le jardin, sur des planches bien préparées, que vous pouvez protéger avec un voile non tissé, comme Agril P17. Les petits pois et aussi le pois chiche peuvent être semés en place. Et ceux qui ont le courage de récolter les lentilles, car les plantes sont bien basses et les petites gousses s'égrènent facilement, vous pouvez aussi semer des lentilles. Pour tous ces travaux du mois de mars, vous pouvez aussi réécouter l'émission de l'année dernière sur rphfm.org, sur le site, pendant laquelle Ismaël et Suzanne avaient donné beaucoup de petits trucs techniques sur les semis, la fertilisation, les amendements, les rotations des cultures et les plantations. Voilà, vous trouverez sur le site de RPHFM toutes les coordonnées possibles pour réécouter cette émission. Et maintenant, je vais aborder le deuxième point de mon exposé en revenant sur le règlement concernant les végétaux obtenus à partir de nouvelles techniques génomiques. Comme précédemment dit dans l'émission de janvier 2026, l'accord du Trilogue, donc cette commission au niveau de l'Union européenne, n'a pas respecté la position du Parlement européen. Les députés avaient voté pour un étiquetage et une traçabilité de toutes les plantes issues des nouvelles techniques génomiques de catégorie 1 et 2. Ils s'étaient aussi prononcés contre leur brevetabilité, quelle que soit leur catégorie. C'est donc le choix des citoyens, des représentants des citoyens et des citoyennes européens qui n'a pas été respecté dans l'accord provisoire du Trilogue. Entre parenthèses, cela montre que la construction de l'Europe, comme elle est faite actuellement, ne permet plus aux peuples de décider de leur façon de vivre. Car dans le Trilogue, il y a une seule partie élue par les citoyens et les deux autres parties sont nommées par les dirigeants, qui sont eux-mêmes nommés. Donc ça laisse mal augurer du futur de la démocratie en Europe. D'abord, je répète ce que sont les nouvelles techniques génomiques. Ce sont des modifications du génome, c'est-à-dire des modifications des chromosomes contenus dans les noyaux des cellules. Ces chromosomes sont constitués de brins d'ADN. Je pense que tout le monde au moins connaît le mot ADN. Ces brins d'ADN sont des associations de base. On parle de nucléotides. C'est une découverte faite il y a plus de 60 ans maintenant. Sur un brin d'ADN, il peut y avoir 100, 1000 nucléotides, suivant les espèces vivantes, suivant les chromosomes. Mais ne pas oublier qu'il y a aussi des brins d'ADN dans d'autres parties de la cellule vivante. Au départ, les modifications génomiques étaient obtenues par des procédés assez violents, avec des produits mutagènes, comme la colchicine ou des radiations ionisantes, rayons X à haute dose. La technique utilisée maintenant est, entre guillemets, plus douce, permet de cibler les parties du chromosome et donc des gènes, des nucléotides que l'on veut enlever ou introduire dans ces brins d'ADN. Cette technique, c'est la méthode CRISPR-Cas9. Vous avez peut-être entendu parler parce que on imagine que ça sera une solution, une technique utilisable pour lutter contre des problèmes de maladies génétiques. Mais cette technique utilise déjà des organismes génétiquement modifiés pour faire ces modifications. Donc nous sommes déjà dans l'utilisation d'OGM. Et le résultat est une plante dont on a modifié le génome, le chromosome. On peut faire plusieurs modifications sur un même chromosome. Mais les séquences d'ADN introduites dans ces plantes modifiées viennent en général de la même plante, de la même espèce. Le règlement sépare ces plantes génétiquement modifiées, appelées NTG, nouvelles techniques génomiques, entre celles qui ont subi moins de 10 modifications de leur génome, les plantes de catégorie 1, et celles qui en ont subi plus de 10, les plantes de catégorie 2. Pourquoi cette séparation au niveau de 2 ? On ne savait pas, on ne sait pas. Sans doute de grands calculs statistiques et aussi l'avancement des techniques génétiques en ce moment-ci. Cette séparation entre ces deux catégories avait déjà été source de dissension au niveau des discussions en 2024 par des pays comme la Hongrie, l'Autriche, la Grèce, la Roumanie qui s'opposaient à cette séparation entre deux types de NTG. Et donc dans cette technique, les plantes de catégorie 1 seraient assimilées à des plantes obtenues par mutation naturelle ou hybridation classique et ne nécessiterait pas une réglementation spécifique OGM. Donc tout cela, toutes ces discussions à la poubelle. Quelles conséquences pour nous ici ? Les NTG sont un danger pour la souveraineté alimentaire européenne et française. On en entend beaucoup parler, car c'est le Salon international de l'agriculture à Paris. Bien qu'on en ait abattu 2 à 3 000 vaches et décidé d'importer 100 000 tonnes de viande d'Amérique du Sud. Bon, et que l'on dise que les Français mangent trop de viande. Enfin voilà, on entend beaucoup parler de la souveraineté alimentaire européenne et française. Avec cette absence d'étiquetage et de traçabilité, les exploitations agricoles sont rendues dépendantes des entreprises multinationales, car ce sont elles qui développent ces plantes NTG. Ces plantes issues des nouvelles techniques génomiques. Le Brésil et l'Argentine, qui ont les plus grandes surfaces d'OGM au monde, donc potentiellement des NTG. En autorisant l'importation massive de produits agricoles à base d'OGM, nous retrouverons des produits alimentaires OGM dans nos assiettes, sans étiquetage quelconque, à un moment de leur importation, de leur transformation, ou de leur distribution. Donc il faut développer des variétés propres à nos terroirs, aussi diverses et résistantes que possible. C'est un des objectifs des Maisons de la Graine, du réseau de semences paysannes, comme la Maison de la Graine du collectif des semeurs de Levallois-Larzac. Bon. Les NTG sont aussi une menace pour les marchés agricoles. La France compte environ 70 entreprises de semences, dont la moitié réalise un chiffre d'affaires de moins d'un million d'euros. Elles sont menacées par les brevets. Elles risquent des poursuites abusives si des traits brevetés se retrouvent dans leur sélection traditionnelle, qu'elles ont faite bien avant que ce soit breveté. Si elles utilisent des variétés NTG, elles subiront sans doute des coûts de licence élevés. Donc des lourdeurs administratives et techniques en plus. Chaque opérateur de la chaîne alimentaire doit avoir la liberté de choisir avec quel produit il veut travailler, des variétés NTG ou des variétés traditionnelles. Donc il faut une traçabilité et un étiquetage obligatoire de toutes ces plantes génétiquement modifiées. Ces plantes appelées plants NTG, plants issus de nouvelles techniques génomiques. Je répète plusieurs fois pour que ça soit bien clair. Hein, voilà. Le troisième point sur lequel cette absence d'étiquetage va avoir des conséquences, c'est sur la filière d'agriculture biologique. Le marché bio sera le premier marché menacé. En France, le marché bio, c'est environ 60 000 fermes et environ 87 000 opérateurs en 2024. L'accord provisoire prévoit l'interdiction des plantes et animaux NTG 1 et 2 en agriculture biologique. Cela impliquerait la mise en place d'une lourdeur administrative supplémentaire pour garantir cette absence de plantes NTG, alors que l'Union européenne annonce qu'elle veut simplifier ses règlements. S'il n'y a pas de traçabilité obligatoire des produits, les filières bio devront mettre au point un système garantissant l'absence de ces plantes NTG, donc issues de nouvelles techniques génomiques. Donc un tel accord pourrait fragiliser la confiance des consommateurs par rapport au label agriculture biologique. D'autant plus qu'au champ, les risques de contamination seront accrus entre plantes traditionnelles et plantes NTG. Le risque dû aux plantes NTG est la pollution par croisement due au pollen ou des fuites de graines dans les champs des plantes non OGM et non OTG. Donc l'encadrement des brevets est nécessaire. C'est la plus grande menace sur la compétitivité et la souveraineté, je le répète, de notre agriculture. Actuellement, il y a déjà dans l'Union européenne plus de 400 variétés végétales sont affectées par plus d'un brevet et jusqu'à 6 brevets peuvent s'appliquer à une seule variété. Il faut donc une publication obligatoire des traits brevetés et leur méthode de détection officielle. La traçabilité et l'étiquetage complet des NTG 1 et NTG 2 avaient été votés par le Parlement européen. Dans la proposition du trilogue, la traçabilité de ces plantes issues des nouvelles techniques génomiques sera limitée pour au simple stade des semences. Donc après se repose la confiance dans la filière bio, le problème des risques allergènes et qui va payer la lourdeur administrative et supplémentaire. Ce doit être à la charge des semenciers producteurs de ces plantes nouvellement issues de nouvelles techniques génomiques normalement, au titre du principe pollueur-payeur. Donc il faut réouvrir le débat sur la traçabilité. Donc pour conclure après ce long exposé à la fois technique et juridique. J'espère que vous n'avez pas trop décroché. Mais je tenais à ce que ce soit assez clair, voilà, et détaillé. Ce qu'il faut faire, il faut écrire à vos députés européens et leur demander de proposer des amendements au texte issu du trilogue. Je ne vais pas vous détailler les trois amendements qui sont proposés, c'est un petit peu abscon parfois. Trois amendements possibles ont été identifiés par les juristes et les techniciens européens. Dans ce cas-là, le réseau Semences Paysannes s'appuie sur des juristes européens et des techniciens qui ont une bonne connaissance du fonctionnement de l'Europe et qui peuvent à ce moment-ci, qui proposent des amendements possibles. Donc en France, c'est le réseau Semences Paysannes et la Confédération Paysanne les ont rédigés, qui en ont assuré la traduction en français. Et donc vous pourrez les télécharger à partir du podcast de l'émission sur rphinferme.org dans l'agenda du jardinier. Et donc c'est Et avec ces trois amendements, vous écrivez à vos députés européens et vous leur demandez d'agir, s'ils veulent. Bon, voilà, c'est pas très sûr. Hein, bon, ça dépend de quel bord ils sont, hein, voilà. Ben enfin, c'est pas qu'un... Il y a un enjeu de santé, il y a un enjeu de préservation de la biodiversité, mais il y a aussi un enjeu économique pour l'agriculture française, voilà. Et européenne. J'arrive à la conclusion. Donc ici se termine cette 17e émission de l'Agenda du jardinier, animée par les semeurs du Lodévois-Larzac, promoteurs des semences paysannes et de l'agriculture biologique. Nous remercions toute l'équipe de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud de nous permettre de nous exprimer. Maëva, Samuel et Axel, toujours aussi efficaces à la technique, dans les nouveaux studios sur la place de Saint-André de Sangonis, en face de la tour ou du Beffroi, je ne sais pas ce qu'on dit. Hein. Et nous remercions aussi tous nos auditeurs et auditrices de nous écouter sur ce sujet du jardinage. Et parfois, on est obligé parfois de revenir, d'aller assez en profondeur dans les sujets techniques. Merci, à bientôt.